vais moi vous faire part de l'expérience du musée Bourdelle. À la suite des propos et de Marie-Laure Bernard-Darc, je vais sans doute ne pas m'étendre sur un certain nombre de points que j'avais envie d'aborder parce que je partage totalement ce qu'elle a dit. Et d'une certaine façon, dans ce musée tout petit et d'une autre, et à une autre vocation, j'ai tenté en effet de faire dialoguer les collections, le lieu avec les œuvres des artistes invités. Alors, je suis arrivée en 2003 et à un moment où ces expériences ont été mises en œuvre dans les grands musées parisiens. Et très certainement, bien évidemment, c'était le moment opportun pour tout le monde. Il ne s'agissait pas... en ce qui me concerne, je venais du musée d'art moderne de la ville de Paris, où il y avait eu, je rappelle aussi, une exposition en 89, je crois, ou 87, pardon, sur l'histoire du musée, qui avait convié les artistes dans le nouvel accrochage des collections de ce musée. Et j'avais donc une expérience dans l'art vivant. Et je suis arrivée dans ce musée qui venait, où j'étais la première directrice conservateur, puisque la fille de l'artiste l'avait dirigée jusqu'en 2002. Et d'emblée, je me suis rendu compte, je le savais, mais j'en étais encore plus frappée, que de la méconnaissance qu'on avait de ce lieu au sein de Paris, un lieu qui, par ailleurs, semblait à tout le monde absolument extraordinairement attachant, un lieu de mémoire, un ancien atelier où Bourdel avait vécu sa vie durant, et complètement, il faut quand même le dire, méconnu du public et même des artistes, même les artistes sculpteurs, avec aussi, en ce qui concerne Bourdel lui-même, il était entaché d'une vision très académique, les gens n'y allaient plus, il y avait quand même un public de fidèles, hein, mais disons que le monde que je fréquentais des artistes et qui pouvait se rendre au musée d'art moderne de la ville de Paris, ignorait tout ce musée. Donc, je suis arrivée en étant absolument, en connaissant, il faut le dire, très peu de choses aussi à Bourdel, et en me disant que ce qui était bien, c'est qu'il appartenait au XXe siècle, il était mort en 1929, et que il me semblait que j'étais autorisée à essayer de l'amener vers la modernité, qu'il a partagé aussi, même si c'était un être, évidemment, qui était un peu coincé, comme on l'a dit souvent, entre Rodin et Brancusi. Mais que, et donc, comment faire avec l'impossibilité à ce moment-là de redéployer les collections, donc de faire un nouvel accrochage, ni de faire non plus de salle de grandes expositions, parce qu'il n'y avait pas de salle d'exposition, et le redéploiement des collections, il n'en était pas question, me semble-t-il, avant de se pencher sur l'étude globale de ce lieu, avec une étude d'architecture, dégageant un schéma directeur, ce qui fut fait d'ailleurs, et donc, voilà, que faire ? Et comme j'avais aussi très très envie de travailler avec les artistes vivants, et je me disais qu'en général c'était quand même ceux qui étaient les meilleurs conseillers en la matière, j'ai commencé à consulter les artistes avec lesquels j'avais eu la chance de travailler, et notamment Fabreau. Alors Luciano Fabreau avait eu une exposition en 86 au Musée d'Art Moderne, j'avais eu la chance de travailler avec lui. Il avait eu en 96, je crois, une exposition à Beaubourg. Il était libre comme l'air, très content, très, très généreux, très sympathique. Et ça l'a beaucoup amusé de découvrir ce musée qui était resté quasiment intact pour certaines de ses salles. Et donc, tous les deux, dans un café, on a élaboré un peu ce qu'on allait pouvoir faire de ce musée. D'autres artistes, un autre que je ne citerai pas, m'a dit « Ah ben là, je ne vois vraiment pas ce que tu peux faire ». Alors surtout, je t'encourage vivement, tu ne te laisses pas prendre au piège du charme des lieux, le lierre, la poussière, non, surtout tu ne t'habitues pas, bon. Mais enfin, il n'a pas dit oui, hein. Il a dit on se reverra plus tard, ce qui a été fait d'ailleurs. Et donc, avec Fabreau, j'ai pu élaborer avec lui, puis un peu après, une série d'expositions qui allaient de fait s'inscrire aussi dans les collections. Et par manque de lieux, mais c'était, à mon sens aussi, un atout que je découvrais, parce que si je suis là très pragmatique, mais je rebondis sur ce qu'avait dit Marie-Laure, c'est qu'en effet, pour un musée comme le musée Bourdelle, les questions se posent totalement différemment. Et la question, non pas, je dirais, de la fréquentation, parce que là, c'est aussi la chance d'avoir un musée où il n'y a pas beaucoup d'enjeux, donc on ne vous attend pas, on ne vous demande pas sans des millions de visiteurs, mais néanmoins, il existe, il est bien, on a envie de le faire connaître au plus grand nombre, et de le remettre dans la vie, parce que certes, qu'il s'était assoupi comme ça avait un charme fou, mais et c'était quand même hors du temps. Et donc, j'ai pensé que il s'agissait de demander aux artistes, et c'est ce qu'a fait Fabreau, pardon, moi j'ai des photos, Fabreau, de convier le visiteur à une promenade dans tout le musée, avec, encore une fois, l'idée toute simple de l'emmener partout. Puisque ce musée n'était pas visité, on allait demander à l'artiste d'être le guide. Et un guide, évidemment, exceptionnel, parce que, bien évidemment, comme l'a dit tout à fait très bien Marie-Laure, Bernadette, l'artiste invité allait s'intéresser à un aspect plutôt qu'à un autre et allait, au sens propre, dépoussiérer non seulement le lieu, mais la vision qu'on avait de cet artiste. Et donc, ils ont joué Fabreau... Alors, attendez. Voilà, oui. Donc, il était excessivement discret. J'ai dû insister beaucoup pour qu'il puisse présenter dans deux salles des œuvres nouvelles. Parce que l'idée aussi, je trouvais qu'il était dommageable pour l'artiste, mais surtout pour le public, de réduire son intervention, de contenir son intervention, pardon, à inscrire des œuvres dans les salles et de ne pas lui réserver une salle pour lui-même, de façon à permettre au public de mieux appréhender aussi son travail. Donc, il a investi... Alors, donc, il s'agissait aussi, comme l'a dit Marie-Laure Bernalac, de commander chaque fois... Enfin, de produire une œuvre nouvelle. Ça, c'était... alors, dans la mesure du budget, c'était une ou plusieurs, mais il ne s'agissait absolument pas de placer des œuvres anciennes dans ce parcours. Donc, de réfléchir à un nouveau propos, et toujours en écho avec ce musée, que je me chargeais de faire connaître à l'artiste. Et c'était en ce sens que je voyais mon rôle de directeur de ce musée, essayer de lui faire connaître l'œuvre de Bourdelle à travers et tous les aspects de ce musée. Alors, auparavant, vous avez vu une œuvre de Bourdelle, La Pénélope, derrière laquelle, mais c'était sans doute pas très visible, Fabreau avait installé une œuvre qui avait le même titre, et qui était constitué de fils de soie verts tendus derrière cette figure. Les artistes en général ont joué souvent le contrepoint, ou l'humour, ils avaient des œuvres en décalé, notamment dans le hall des plates. Vous avez pu voir tout à l'heure une œuvre qui s'appelait L'échelle de Jacob et qui pendait au plafond et qui était mouvante. Donc en général, quand ils ont dû se confronter, et toujours ils se sont confrontés au hall des plates, ils ont choisi des œuvres qui ne pouvaient pas, qui surtout n'allaient pas rivaliser avec la, disons, le hiératisme ou la pesanteur, la monumentalité des pièces exposées. Alors ici, vous avez une, ça c'était l'œuvre de Claude Ruteau avec une pile de toiles et la figure évidemment emblématique de Bourdelle, la plus connue, l'Héraclès Archer, et l'exposition s'appelait Les toiles et l'archer. Pour Claude Ruteau, qui avait l'habitude de ce genre d'exercice, il s'agissait évidemment de réactualiser ses définitions méthodes et de les mettre à l'épreuve de ce lieu où, mis à part la salle que nous allions dégager pour que l'artiste puisse exposer une œuvre seule, on ne bougeait pas les pièces en général. Et l'autre contrainte, donc c'était la production de la pièce, le parcours éventuellement dans tout le musée, et il y avait aussi l'idée qu'il y aurait toujours un catalogue qui accompagnerait l'exposition. Et d'autre part, alors c'était là où on peut revenir sur le choix des artistes, D'emblée, j'ai pensé préférable de convier des artistes qui étaient déjà bien affirmés. Et il ne s'agissait pas d'être un lieu d'expérimentation pour la jeune création, mais d'artistes qui pouvaient se colter à cette expérience qui était difficile dans un lieu qui lui-même aussi avait été très hétérogène, ce qui pouvait être un atout. Mais donc représenter des difficultés. À propos de cette pièce de Claude Ruteau, dont toutes ces toiles au sol, je voudrais aussi dire que ce qui m'a tout de suite semblé aussi intéressant, une sorte de défi venant du musée d'art moderne, c'est que le Livre d'Or, dans les premiers temps, ça a été absolument catastrophique. Hein. C'était quand même la directrice est folle. C'était aussi c'est vrai que un certain public qui était content que ce musée n'ait jamais bougé était offusqué de c'était aussi bien évidemment des personnes qui étaient hostiles à toute ouverture vers l'art contemporain, qui défendaient aussi autre chose. Et alors là, en ce qui concerne l'étoile de Claude Ruteau, je crois qu'il n'y a pas eu de, je crois que ça a été la pire des ça a semblé une provocation épouvantable, et là ça a fait des débats au sein de... Alors, je trouvais, en ce qui me concerne, que c'était tout à fait intéressant, ça, parce que j'avais un peu oublié cette résistance à l'art contemporain, à l'art d'aujourd'hui, venant d'un musée où, quand les gens y viennent, ils franchissent la porte et ils savent, ce qu'ils venaient voir. Tandis que là, c'était dans l'idée aussi, à partir du moment où les œuvres s'inscrivaient dans les collections, et vous aviez les deux publics, et j'avais l'espoir, et je pense que c'était pas totalement faux, et puis il suffisait que ça ne concerne qu'une seule personne, que les visiteurs qui viendraient uniquement pour Bourdelle, certes on allait leur imposer de temps à autre la découverte d'une œuvre d'un artiste contemporain, mais ils ne se seraient jamais sans doute déplacés pour le voir, et certains d'entre eux pouvaient soudain avoir une rencontre avec ce questionnement de l'art contemporain. Et à l'inverse, et ça s'est produit absolument, un public ou des visiteurs venus voir l'exposition de l'artiste invité, se mettaient à regarder Bourdelle, et ils le regardaient autrement. Là, vous avez une exposition, enfin une des pièces de Felice Varini dans le hall des plâtres. Donc c'était une ligne qui allait d'une sculpture à une autre, avec le point de vue qui se situait derrière le centaure. Ça, c'est une exposition qui a trouvé un public ravi. Enfin, ça a très très bien été accueilli. C'était sans difficulté. Mais c'était au sein du musée, présentait quelquefois des difficultés, parce que là c'était un chantier énorme, et pendant un mois ils ont dû travailler. Et le personnel du musée n'était pas du tout non plus habitué à une présence comme ça permanente des artistes. Donc là, vous avez un autre point de vue. On voit très bien que, me semble-t-il sur cette photo en tout cas, que dans la peinture de Felice Varini, tout d'un coup, les sculptures sont dans un nouvel espace défini par ces lignes et acquièrent une autonomie, une relation entre elles totalement différente. On les regarde, bien évidemment, elles sont découpées en quelque sorte par ces lignes. Donc là, c'est une autre pièce qu'il avait faite dans les salles au cœur du musée, qui avait été vidée des collections. Donc je passe un peu vite. Là, vous avez une œuvre de la collection de Bourdelle. Alors, Laurent Pariente aurait beaucoup aimé s'installer dans le hall des plâtres. Mais ça, nous en avons dissuadé, on n'avait pas les moyens, c'était pharaonique comme chantier, puisqu'il s'agit de constructions qui recouvertes d'un enduit fait de craie poncée et d'une sorte de labyrinthe dans lequel il avait installé plusieurs œuvres de Bourdelle, plusieurs sculptures. Sarkis, magnifique exposition où il s'agissait donc il a tendu un voile. Un vélum de couleur orangée. Donc on était là tout d'un coup, on avait quitté Paris, on était évidemment au bord de la Méditerranée, Et mais ce qu'on ne voit pas dans cette photo, c'est que il l'avait tendu presque au ras de la tête du centaure mourant de bourdelle, si bien que les autres œuvres de la salle, bien plus haute, il y avait une découpe qui faisait que on ne voyait le haut de ces sculptures disparaissait, sauf à se glisser, ce qui m'a valu quand même une lettre absolument pas injurieuse, mais disait que j'étais absolument pas là pour ça. Ce à quoi je répondais, c'était comme on avait la chance dans le musée d'avoir à la fois des plâtres et des bronzes, que si quelques personnes évidemment étaient choquées qu'une des sculptures en plâtre ait été un peu coupée par ce vélum, elle pouvait toujours la voir dans son intégrité dans le jardin. Bon, donc c'était alors au fil des années quand même les polémiques c'est ça qui était encourageant, se sont un peu éteintes là-dessus. Là, vous avez aussi une Sarkis dans le devant, toujours la Pénélope qui avait mis un tissu et un parfum. Donc aussi tous les sens étaient à nouveau convoqués. Une pièce de Sarkis dans. Et là, pourquoi ça ne bouge plus? Ah oui, Séchas. C'est dommage, on le voit. Pardon. Donc Séchas, lui, avait décidé de s'approprier une œuvre de Bourdelle, et donc c'était le centaure. Pour se le faire, ça c'était intéressant aussi, il est parti des moules que nous avions encore à disposition, en sachant que ces moules ne pouvaient plus être utilisés parce que la pièce, le nombre de tirages est épuisé. Et donc il a travaillé aussi à partir de ces moules, et il s'agissait donc mais la photo manque. Enfin, donc le visiteur qui entrait dans la salle pensait avoir sous les yeux le plâtre du centaure mourant de Bourdelle, et tout d'un coup, ce centaure s'effondrait, comme vous le voyez. Et dans un bruit, déjà le bruit du plâtre, qui n'était pas un plâtre, là, en l'occurrence c'est d'une polystyrène, et puis soudain, il se reconstituait et se relevait comme par enchantement. Et donc ça, c'est... Donc chaque fois, vous voyez, chaque fois vous avez aussi d'autres travaux qui accompagnaient, comme je vous disais, les œuvres. Gloria Friedman, qui a investi aussi tout le musée. Là, quelquefois, il s'agissait d'ajouter des pièces plus anciennes et revues dans l'appartement de Bourdelle, dans le jardin. Là, ce sont une série de bustes en céramique qui répondaient au portrait de Bourdelle. Une série de, c'était toute son exposition, peut-on dire, était une vanité. Alors, Ange Leccia, lui, ça s'apparente plus à une commande, mais néanmoins, elle a été présentée comme une exposition, a fait un travail dans les réserves du musée, un film qu'il a réalisé et que nous avons gardé. Alors, donc là, il s'agissait chaque fois d'expositions monographiques qui se sont en principe ont occupé tout l'espace du musée, mais ça c'était un peu variable. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire qui est très importante, c'était que carte blanche était donnée à l'artiste, c'est-à-dire que c'est lui qui choisissait toujours le lieu où il voulait intervenir et sous quelle forme. Moi, encore une fois, je l'incitais peut-être à s'intéresser plus à un lieu plutôt qu'à un autre, mais carte blanche était vraiment donnée. Et cette carte blanche, j'ai souhaité la donner à plusieurs artistes pour la dernière exposition que j'ai faite au printemps, et d'envahir tout le musée. Et il y a eu 11 artistes qui étaient invités. Et la difficulté, mais qui finalement n'a pas posé problème, c'est que je craignais que tous les artistes puissent se précipiter sur la même salle et optent pour le même lieu, et qu'il faudrait ensuite les départager ou les convaincre. Et en fait, ça s'est excessivement bien passé. Chacun a trouvé sa place. Bon, il est vrai qu'il y avait deux œuvres, par exemple, qui nécessitaient le noir l'une de vidéo et une projection, donc bon, les lieux s'imposaient d'emblée, mais chacun, vraiment sans que j'intervienne, a élaboré un projet personnel, singulier, pour cette exposition, où je souhaitais faire appel à des artistes, non seulement des Français, mais de la scène européenne, où je souhaitais que différentes modes d'approche de la sculpture puissent être envisagées, de façon évidemment modeste, en fonction, encore une fois, du lieu qui est restreint. Et donc là, vous avez une proposition de Christian Boltanski, une série de chaises parlantes, disposé là à l'entrée, sous les arcades, devant le jardin. Et pour lui, il s'agissait des chaises que l'on place dehors, dans les rues de nos villes, de nos villages, et qui nous permettent les conversations. Et le public a été ravi, s'asseyait d'ailleurs, ne voyait pas au départ, ne comprenait pas qu'il s'agissait évidemment d'une œuvre, et tout d'un coup interloqué de les entendre parler, poser des questions du existentiel, comme Christian aime les faire entendre. Qu'as-tu fait de ta vie, quels sont tes désirs, quelle sera ta mort, quelque chose comme ça. Mais néanmoins, ça les faisait sourire, hein, et vraiment, il y avait tout d'un coup la solennité un peu de ce jardin où sont présentées les grandes sculptures du Monument Général Alvéar, disparaissait, et on était chez soi, chez Bourdel plutôt. Ici, Orlan. Trois sculptures d'Orlan, une que nous avions fait réaliser à l'occasion de cette exposition, donc chaque fois il y a eu des productions, hein, et qu'elle a décidé de placer au fond de ce hall des plâtres, haut de plus de 10 mètres, et qui était vraiment une salle dont la scénographie remonte aux années 60, n'a absolument pas été bougée, elle a été conçue par la veuve de l'artiste, et qui probablement, en hommage et d'une grande fidélité à son époux Bourdel, le voyait, a imaginé presque une église, un musée pour cette salle. Et donc il nous a semblé de les placer là, comme en une espèce de lévitation, comme à la place du maître autel qui était absent, leur donnerait une présence tout à fait juste pour ce lieu. Alors là, c'est Jean-Luc Moulaine qui, un peu à la façon, si je puis dire, de Séchas, à travailler à partir même de l'œuvre de Bourdel. Donc il avait une salle qui lui était consacrée, puisque dans le principe, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était que toutes les œuvres devaient s'inscrire cette fois-ci dans les salles abritant les œuvres de Bourdel. Là, il n'y en avait pas, une salle lui a été réservée parce qu'il a été, il se les est appropriés. Et là, vous aviez par exemple, auparavant, là, de dos, une des œuvres de Bourdel qui s'appelle Le Fruit, que Jean-Luc Moulaine a souhaité, il a voulu la relooker, un petit lifting, puisqu'il l'a, à partir d'un plâtre réalisé toujours avec nos moules, il a essayé de l'amincir, de lui donner des canons plus conformes à ceux qui sont aujourd'hui en vigueur. Il lui a ouvert les yeux, changé la coiffure, et finalement on a une sculpture un peu bizarre, parce que il lui avait supprimé le socle aussi, le piédestal auquel elle s'appuyait. Et une autre sculpture aussi, je ne sais pas si on la voit, non, on ne la voit pas tellement plus près, bon, celle de la noire, il l'a faite à partir de quatre dos de sculptures de Bourdel, c'est-à-dire que ça donnait lieu à un travail dans les réserves, la recherche des sculptures. Donc vraiment, ce qui était aussi, ce qui me semble aussi important à dire, c'est que bien évidemment d'emblée, il s'agissait dans le choix des artistes, de trouver des artistes qui pour la, enfin, de tous les artistes que j'ai invités, il n'y en a pas un, me semble-t-il, qui était particulièrement intéressé par l'œuvre de Bourdelle ou même qui la connaissait. En revanche, c'est un chorégraphe qui s'est les écorché, Brumachon, Claude Brumachon, qui lui est intéressé par l'œuvre de Bourdelle, qui a fait un spectacle au sein du musée. Vraiment sur mesure, parce qu'il en rêvait depuis, je crois, enfant. Et donc aucun de ces artistes ne connaissait, mais bien évidemment, au départ, il s'agissait, même s'il n'avait rien en principe comme dialogue au départ, mais en définitive, puisqu'ils avaient du temps, ça c'était aussi important pour moi, ils avaient en général un an au moins pour préparer l'exposition, réfléchir. Donc ils arrivaient toujours à interroger soit le lieu, soit une sculpture particulière qui retenait leur attention. Enfin, chaque fois ils ont trouvé des réponses à cet exercice. Et alors Elisabeth Ballet, je crois qu'il y en a une autre après, Elisabeth Ballet, justement, lorsqu'il s'agit d'une pièce qu'elle a montrée sur la terrasse, qui jusqu'à présent était... il ne se passait rien sur cette terrasse. Et c'est à la suite de l'exposition d'Isadora Duncan où elle avait découvert des dessins de Bourdelle, et elle me disait elle-même « Ah, ces dessins étaient extraordinaires, le mouvement, qu'un autre aspect de Bourdelle lui avait été révélé. » Et donc elle avait souhaité s'installer là, devant ce bas-relief qui est un hommage justement à Isadora Duncan, et qui est un bas-relief pour l'État des Champs-Élysées, et qu'elle a conçu cette œuvre très dynamique comme une piste d'autoroute, faisant aussi allusion aux phares de voitures que l'on voit lorsqu'on est dans la nuit sur l'autoroute. Et donc là, vraiment, elle a montré combien elle avait, à travers cette invitation, eh bien, changé elle-même son point de vue sur Bourdelle. Là, il s'agissait de Hans-Peter Feldmann, donc avec évidemment cette statue très célèbre de Michel-Ange qu'il avait repeinte, et des grandes photos en regard du jardin, puisqu'il y a un jardin à Bourdelle. Kounelis qui... alors là, lui, il n'a pas fait une œuvre pour l'occasion, mais il a réactualisé une pièce qu'il avait montrée une fois. Il avait vu l'exposition de Fabreau, et donc il a fait un peu comme Fabreau, à savoir il s'est vraiment immiscé de la façon la plus discrète possible dans l'accrochage tel qu'il était. J'ajoute aussi, et ça c'est que nous-mêmes au musée, à l'occasion, à la faveur de toutes ces expositions, nous avons de temps à autre, enfin même presque chaque fois, revu un peu l'accrochage, dans la mesure de nos possibilités bien sûr. Et il nous est arrivé aussi, en fonction des choix des artistes, de revoir l'accrochage. Par exemple, lorsque Gloria Friedman a réalisé cette série de bustes, bien évidemment c'est parce qu'elle avait vu les bustes de Bourdelle, mais là du coup on les a exposés non loin, vous voyez. Donc ça a été aussi un travail au sein du musée, avec les équipes du musée. Anne-Véronica Janssen, je souhaitais montrer que la sculpture, ça pouvait être aussi un travail avec la lumière. Et les œuvres ne se sont jamais télescopées entre elles. Elles ont toutes, avec Bourdelle, c'était vraiment, il n'y avait pas de... Ça s'appelait, l'exposition s'appelait En Mef, est-ce qu'il te plaît. C'était aussi beaucoup... c'est moi qui, là, en l'occurrence, faisais ce qui me plaisait, mais c'était aussi les artistes qui pouvaient faire, dans un cadre défini par la topographie des lieux et le budget, faire ce qu'ils voulaient. Mais avec, ils étaient chez Bourdelle et de fait, ils étaient contraints de travailler avec lui. Et aux personnes qui pouvaient être choquées de cette intrusion, des artistes contemporains. Il m'était facile de rappeler que Bourdelle avait été professeur à la Grande Chaumière pendant 20 ans, qu'il aimait bien évidemment la création contemporaine, que dans les projets de son musée qu'il aurait voulu faire construire par un architecte qui était vraiment de son époque, et il avait prévu un amphithéâtre et il avait prévu d'inviter régulièrement les artistes. Là, il s'agit de Cass Witzer qui a fait des grandes peintures sur chevalet en quelque sorte, qui sont devenues comme des sculptures, et là qui répondait au lieu, à l'extension de Porzan Park. Richard Deacon, qui a créé cette pièce pour le lieu, et qui, dans cet espace consacré à la sculpture commémorative de Bourdelle, son premier monument aux morts à Montauban, et l'hommage à Mickiewicz qui est aujourd'hui à Paris, Cour la Reine. Là, alors, une vidéo de Tania Moreau, où elle a filmé, et elle a aussi réalisé le son de la plus grande casse d'Europe, toujours à proximité des sculptures de Deacon. Et je vois que le temps passe, et je voudrais, pour cette exposition, vous présenter. Alors ça, c'est les sous-sols du musée. L'œuvre de Claude Lévesque, L'île au trésor, dans un espace... Alors là, c'est vrai que je dois avouer que j'avais un peu dérogé à la règle, c'est-à-dire que je lui avais réservé d'emblée ce lieu, qui est un lieu de réserve, de moules, des anciens moules à pièces, des moules à bon creux, qui sont entreposés là depuis les années 40-50, qui ne sont plus utilisés, et que Bourdelle n'a pas vu, mais qui ont été rangés là par sa veuve, qui est morte, elle, en 72, et dans ce lieu aussi figurent certaines des plates qui sont de retour de la fonderie, qui ont été mis là à faute de place ailleurs, et qui ne sont pas des œuvres, qui ne sont pas les plates originaux, mais... Et donc cet espace, quand je suis arrivée dans ce musée, m'a semblé un lieu absolument extraordinaire. Et d'emblée, évidemment, j'avais pensé à Claude Lévesque, qu'il a mis juste en lumière avec, vous voyez, des coups de projecteur sur certaines des œuvres. Le lieu en soi est déjà très onirique. Et puis il est accompagné d'un son qui saisit le visiteur, parce que vous avez à la fois une caisse qui tombe et un glas au fond de qui résonne de temps à autre. Et ce qui m'a aussi qui a été tout à fait étonnant, c'est qu'à la suite de ça, c'était, je n'en reviens pas, mais une difficulté quand même, parce que c'était dans les sous-sols, enfin il y avait des problèmes d'ouverture au public, mais après, un grand nombre de personnes m'ont dit, mais il faut que cette pièce, cette salle, soit annexée finalement au parcours des collections, qu'en elle-même, elle va compléter. Je regrette que ces photos ne rendent pas compte du tout, je me suis aperçue que vous n'avez pas eu une seule photo sur l'atelier de Bourdelle. Ce que je ne comprends pas très bien, qui est la pièce, les salles, le noyau vraiment patrimonial de ce musée. Et donc, plusieurs ont pensé qu'en effet, elle pourrait être annexée désormais au circuit des collections. Et que donc, c'est finalement à travers le travail, et grâce au travail de cet artiste, de cette invitation faite à cet artiste, que peut-être le musée Bourdelle va avoir une salle que le patrimoine de ce musée va s'enrichir, et qu'elle nous a permis de regarder, bien sûr, ce lieu, et non seulement de le regarder, mais de le mettre à l'honneur. Donc, je pense aussi, comme Marie-Laure Bernarda, qu'il ne faudrait pas ces inscriptions des œuvres contemporaines dans les collections deviennent une espèce de système, de recette obligée. Pour le musée Bourdelle, à ce moment-là, ça me semblait absolument indispensable. Personnellement, si j'étais restée encore quelque temps dans ce musée, je pense que j'aurais changé. Je n'aurais pas continué, en tout cas. J'aurais essayé d'avoir une vraie salle d'exposition pour faire autre chose. Et puis parce que, la pertinence, en tout cas, de le choix de l'artiste est essentielle pour qu'il puisse répondre à la demande qui lui est faite de s'inscrire dans ce lieu patrimonial et en fait compte de le faire découvrir, de le mettre en valeur et pour Bourdel d'essayer par le biais de sa réflexion à lui, de ce qui nourrit sa démarche, de nous montrer ce qui aujourd'hui chez Bourdel peut nous intéresser et être d'actualité, être vivant. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui chez Bourdel, c'est pas du tout ce qui nous intéressait hier, ni ce qui nous intéressera demain. Et ils sont les mieux à même de nous le faire voir, à mon avis.